Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute.
Salut Antoine.
Salut Paul.
Alors aujourd'hui, je suis avec Antoine qui a créé Exupéry. Donc c'est presque Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, et t'es avec du coup Paul Emploi que j'ai écrit sur LinkedIn pour la petite blague carambar. Donc on est entre deux personnes rigolotes si je puis dire. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. L'idée, c'est que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours professionnel. On travaille tous les deux dans un milieu en lien avec l'éducation, l'emploi. Je trouve ça super pertinent du coup de pouvoir t'inviter sur cet épisode du podcast. On va pouvoir commencer peut-être sur un petit focus, je pense, sur ton parcours professionnel, ton expérience en tant que salarié. Comment est-ce que tu as fondé, on va appeler ça un organisme de formation, Exupéry,
ouais,
si je ne me trompe pas. Les quelques sujets du moment et puis peut-être ta vision sur l'emploi, sur l'éducation et sur ce que tu es en train de créer avec Exupéry. Et puis de temps en temps, je pense qu'on ira sur tes quelques hobbies et passions également. Ça te
okay,
va comme programme
cool. Ouais, allez, c'est parti.
Super.
Pour mon parcours pro, j'ai fait une école de commerce en bachelor pour commencer. Je partais sur le commerce, je me suis dit tiens, alors j'ai fait encore avant, j'ai fait un bac STG, donc les bacs qui sont pas forcément les plus réputés ou qui étaient un peu les bacs poubelles comme on appelait ça. Et moi en fait j'étais c'est un peu dur, mais en fait à l'époque c'était soit tu faisais ES, soit tu faisais STG.
Ouais.
Et moi je me suis dit j'étais pas un grand fan d'école. Au collège on m'avait plutôt dit bon va plutôt t'amuser dans la cour plutôt que de faire des. Il m'avait dit gentiment à la fin du brevet bon t'es bon pour faire un BEP ou un bac, et je dis en fait pourquoi pas.
Ouais.
Et bac STG. Donc STG, je me suis dit vers l'option mercatique, à l'époque c'était comme ça, donc c'était plutôt le marketing. Et je me suis dit, en fait j'adore le marketing, j'ai découvert un truc trop cool. Et du coup, école de commerce, donc concours bachelor, donc je fais école de commerce à Nantes qui était le bachelor d'Audencia.
D'accord.
Sur 3 ans. Et j'apprends plein de choses, on part à l'étranger, on fait des séminaires, on va en université, bref, 3 ans extraordinaires. On est parti à Washington, juste à côté de Washington, pendant 4 mois. J'ai eu l'occasion de partir en stage en Espagne, à Ibiza, c'était un stage, à 18 ans.
On a dû chambrer à l'époque.
Beaucoup, ouais. Après, je suis allé au Bangladesh pendant 3 mois, bosser dans une boîte d'import-export, j'ai fait la Chine. Et en fait, je me suis dit, j'adore l'import-export, je partais sur l'import-export. Donc moi, sortie de bachelor, je pars plutôt faire l'import-export. Je choisis de faire un master après à Audencia, donc un master tourné sur l'international.
Génial.
Donc vraiment pas du tout dans le digital, pas du tout dans la formation. Et je m'en vais en master pendant 2 ans. Donc je fais un master en première année internationale, deuxième année un major business dev, donc avec les grandes écoles. Et là, je me dis trop bien international, je pars à Singapour pendant 6 mois et je vais aider les boîtes européennes à s'implanter en Asie. Donc, je fais ça pendant 8 mois.
En tant qu'expat, du coup.
Voilà, expat, 6 mois plus 2 mois. Et je suis à Singapour, j'aide les boîtes européennes. Donc, je fais Malaisie, Indonésie,
c'était
Thaïlande.
La société dans laquelle tu travaillais
Elle n'existe plus aujourd'hui, malheureusement.
Tu l'as peut-être enlevé de ton CV.
Non, je dois l'avoir sur mon CV, mais elle n'existe plus.
Ouais.
Et c'était une super expérience.
Ouais,
donc, Indonésie, tous les pays asiatiques. Et je me dis trop bien, j'ai trop envie de faire de l'import-export. Sauf qu'à un moment donné, je me dis bon, je rentre en France, je savais pas trop quoi faire. Et j'avais une première expérience avant ce parcours international pour Google. En fait, Google, à un moment donné, avec Audencia, cherchait des coachs, ce qu'ils appelaient des coachs, et des personnes qui allaient aider les entreprises à se développer sur Internet. Et là, je vois l'offre coach Google. Je me dis ok, mais c'est quoi? Et je postule à cette offre-là. Et en gros, pour Google, donc on n'était pas encore salarié Google, on travaillait en freelance pour Google, on accompagnait des TPE-PME à se digitaliser. Donc ça, c'était 2014, à peu près 2014-2015.
Concrètement, l'émission, c'était quoi? C'était du Google My Business, c'était du SIA, c'était...
Exactement, que du Google My Business. Au début,
c'était juste faire leur adresse digitale sur le moteur de recherche Google avec... les quelques photos, les
exactement.
Les
c'était le lancement de My Business. My Business est arrivé en 2012-2013.
Ouais.
Et pour déployer ça en France, ils ont fait appel à ce qu'ils appelaient au début des coachs. Donc on allait au porte-à-porte, comme on faisait du porte-à-porte,
super malin,
avec Polo Google, avec toute l'équipe Google, etc., qui venait, et on allait aider les commerçants à créer leur fiche My Business. Donc on leur montrait créer une photo, mettre des avis. D'ailleurs, My Business, c'est un outil qui est encore très puissant.
Ouais, moi je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais des amis à moi qui étaient déjà freelance en tant qu'étudiant. Et ils vendaient cette prestation de vous faire le Google My Business. Et des fois, ils se faisaient un fricandor.
Eh ben, j'aurais dû faire ça.
Ça prend quand même 5 à 10 minutes, je pense, de le
faire. C'est gratuit.
C'était un peu à l'aise avec le digital.
Donc ouais, on a commencé. Et nous, c'était gratuit, donc on faisait ça pour Google. Ouais. Après, j'ai bossé dans une boîte dans l'assurance, donc rien à voir. Je cherchais un petit peu à ce moment-là. j'ai rapidement rejoint une agence qui s'appelle les Léonards, qui faisait des formations pour Google. Et c'est là où j'ai fait la passerelle entre les Léonards et Google, où en fait j'étais en charge pour Google de formation pour les jeunes, donc dans les universités françaises. Et pour Google, on avait un partenariat avec les 18 universités françaises où on faisait des formations de 3 à 4 jours sur le marketing digital. Et c'est le pont entre coach Google et ensuite Google pour aller faire des formations dans les universités. Donc moi en fait j'avais en charge de monter des programmes de formation pour les universités, donc Google pour les universités, donc on est quand même sur un géant avec des universités qui sont quand même de public, où on formait, donc pas moi, mais on trouvait des agences pour former les étudiants sur le marketing digital pendant 3 jours en mode bootcamp.
Et ça faisait pas peur aux universités de nouer un partenariat comme ça avec un géant américain, une université publique en
fait. Ouais, non, c'est vrai que ça peut paraître gros comme ça, mais l'idée de Google, et qui reste toujours encore aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut former et bien former les étudiants à utiliser le digital. Donc pas que Google, c'est le digital dans son ensemble. Et c'est vrai que dans les universités, cette touche du digital en 2016-2018 n'était pas forcément encore bien présente. Et c'était l'idée de Google. Et c'est toujours l'idée de Google, qui s'appelle aujourd'hui Google Étudiant Numérique, qui est un programme de formation gratuit pour former les
Et tu décroches du coup des... Moi je me souviens avoir fait 2-3 certifications Google, il y a pas mal de temps, hein. Et il y a toujours ce système un peu de parcours e-learning. Il y a un espace comme ça sur Google où tu peux te former toujours, j'imagine.
Ouais, toujours, qui s'appelle Google Atelier Numérique, qui s'appelait Google Digital Active, peut-être que tu as à l'époque.
Ça devait être ça à l'époque.
Et aujourd'hui, c'est Google Atelier Numérique. Okay. Et pareil, c'est un parcours de formation.
Gratuit pour les étudiants.
Gratuit, ouais, qu'ils peuvent mettre sur leur LinkedIn. Ils ont un certificat à la clé de Google. Donc c'est quand même un petit plus sur un CV.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'encourage vraiment tous les étudiants, tout type de personnes, parce que c'est pour tout le monde, c'est vraiment les bases du marketing digital.
J'ai eu la chance d'aller visiter les locaux de Google à côté de San Francisco, à Cupertino. Là.
Ok, une petite TPE.
C'était assez marrant. D'ailleurs, il y avait même des vélos Google un peu jaunes.
Les gros jaunes,
T'avais un vélo comme ça en fin du porte-à-porte?
Non, nous, on avait une voiture Google.
Génial. Et puis, on les voyait aussi des fois dans les rues, tu sais, en train de cartographier pour Google Maps. Mais je pense qu'il y a un lien entre Google My Business et puis le Google Maps.
Ouais, c'est en fait les points que tu as sur Google Maps. C'est les fiches My Business qui ressortent.
Ok, ils sont malins. Et qu'est-ce que tu en as retenu comme ça de travailler pour une aussi grosse boîte américaine en termes de, je sais pas, en termes de valeur, de culture, de travail? Ça a dû t'apprendre pas mal de choses.
Énormément.
Ouais.
Vraiment énormément, parce que c'est une boîte qui, on dit toujours, fait x10. On est une boîte qui est sur l'innovation. En fait, c'est pas on a un projet, on a un concept, on a une formation. Allez, c'est bon, on l'a fait pendant 2 ans. C'est qu'en fait, la formation entre le J1, le J2, le J8 et le J10, elle a toujours évolué, c'est toujours en constante évolution, et c'est une boîte qui est toujours en train de se réinventer, test and learn, toujours. On le voit sur plein de produits.
Au niveau du salarié, finalement, t'es toujours dans, t'as de la place pour de la créativité, j'imagine.
Ouais, eux, ils ont, chez Google, il y a le 80-20, c'est-à-dire qu'en fait, 80% de ton temps est pour ton activité principale, et 20% est pour une activité autre, qui est une activité qui peut être...
Rouge,
C'est comme ça d'ailleurs qu'est né Gmail. On ne sait pas, mais Gmail, c'est des personnes de chez Google sur leur 20% de leur temps qui se sont dit on n'a pas de messagerie.
Ouais.
Et ils ont inventé Gmail comme ça.
C'est assez fou.
Ouais.
Après, ils ont peut-être fait ça aussi pour les Google Glass et ça a moins bien fonctionné.
Oui, c'est vrai. Mais il y a eu des lunettes, des cardboard Google en carton.
Ouais.
Donc on pouvait regarder. Pareil, c'est deux ingénieurs qui ont inventé ça en mangeant une pizza.
Et t'avais des liens du coup avec les équipes US? C'était un environnement de travail francophone? Comment ça se passait du coup? Si t'as quelques souvenirs?
C'est un programme international, Google Atelier Numérique, Google Digital Garage à Londres, et enfin bref, un peu partout. Mais c'était propre à chaque pays, c'est-à-dire que nous on avait Google Atelier Numérique qui était propre en France, où on avait une partie étudiant et une partie TPE-PME.
D'accord.
Et qui était vraiment, vraiment France. Où étudiants, c'était les étudiants d'université. Et TPE, PME, c'était à la fois sur les salons, sur du porte-à-porte ou via les chambres de commerce avec des partenariats. Donc nous, en fait, notre rôle au début en tant que coach et puis après en tant que responsable, c'était étudiants, donc les formations d'université, et plutôt des conférences ou des, ouais, des conférences en salon, Vivatech ou autre.
Et t'avais quel âge à l'époque ?
Entre, alors j'ai commencé mes premières missions pour Google, j'avais 22-23 ans.
Et ça te faisait pas peur d'aller dans les universités, donner des cours ?
Alors là, je ne faisais pas encore. Ouais. Là, je ne faisais pas encore. D'accord. Et j'ai commencé les formations d'université. Ou même les formations tout court, même les formations en CCI, ouais, à 22-23 ans.
Ouais.
Former une centaine de personnes, mon premier pitch, ouais, devant une centaine de personnes, j'ai transpiré, j'avais changé trois fois de t-shirt. Ouais, c'était, ouais, à 23 ans.
Bon, ça aide quand t'as le Google derrière toi, je pense que
ça aide, donne plus de crédit, mais ça te donne une pression aussi. Ouais, parce qu'on avait des media training ou des trainings chez Google qui étaient super bien faits. Je me rappelle encore avec Mathieu Servetti et d'autres personnes chez Google. Ouais. Qui était bien, mais il y avait quand même au début une petite pression. Bien et sûr. Après les 3-4 premiers, ça va, ça roule.
Ouais.
Mais il y a toujours cette petite pression quand même.
Bah, bien sûr. De toute façon, il n'y a que la répétition qui te permet de
gagner confiance. Comme un entretien. Ton premier entretien, t'es zéro.
Ouais.
Le 10e entretien, t'es bon. Le 20e, t'es une machine.
Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'est arrivé, j'étais dans mon ancienne boîte là, chez Adflex. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on a gagné un concours de pitch comme ça à Paris avec Amazon. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était en lien avec l'éducation, avec l'EdTech. Puis on va en finale à Londres, et puis c'est moi qui pitch, et j'avais une minute pour faire mon pitch. Et on était pas mal en déplacement à l'étranger, parce qu'on avait ouvert les US, on avait fait un autre pitch à Mexico, je me souviens. Puis on arrive à Londres,
c'est cool.
Séminaire d'équipe, tu vois, je faisais presque un morceau de tour du monde. C'était super,
il y a pire, hein.
Hyper enrichissant, mais hyper fatigant. Et évidemment, un peu dernière minute, je prépare mon pitch avec plein de confiance en moi, 24 heures avant, j'apprends tout par cœur, le truc qu'il ne faut pas faire, je pense, en tout cas, moi, ça ne me réussit pas. Et je suis parti en délire sur un Toy Story pitch, j'étais allé un Pixar pitch ou quelque chose comme ça, je t'avais trouvé un peu du coup sur Google,
technique, puis, ouais.
Pitcher en une minute et convaincre et apporter un peu de valeur et créer des émotions. Donc ça commençait par Once Upon a Time, il était une fois, blablabla. Et en fait, j'arrive devant, comme ça, 400 personnes. Et puis j'avais préparé un petit pense-bête sur un bout de papier, et puis avec cette confiance, je le mets à la poubelle, je me dis allez, j'y vais comme ça, claque devant tout le monde, et j'avais juste deux slides. Et en fait, ils ont positionné la mauvaise slide, du coup ça m'a perturbé, j'ai pris un pic de stress devant 400 personnes, je prends le micro, je fais Once Upon a Time, et là j'ai un blackout, tu vois, je sais plus ce qui se passe autour de moi, j'ai un grand blanc devant 400 personnes, tout le monde me regarde, je les regarde, et puis finalement je leur dis, bah désolé les gars, j'ai tout oublié, sorry I failed, et je rends le micro, je sors de la salle, je disparais, je veux plus en entendre parler. Vraiment c'était le moment, le plus gros moment de solitude que j'ai eu chez Amazon, et puis tu vois, hyper, un peu tout ce que tu vois sur YouTube, tu vois, les trucs qui t'inspirent un peu quand tu es jeune entrepreneur, voilà, la TEDx et tout, tu vois, là tu dis, ah ça y est, c'est toi, t'as le badge et tout, t'y vas. Et un gros loupé. Et je pense qu'il y a deux réactions. C'est soit tu abandonnes, tu dis bon, la prise de parole en public, c'est plus fait pour moi, ou soit tu continues finalement à accrocher dedans et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais je comprends ce stress et cette transpiration et ce syndrome de ça te paralyse.
Ouais.
Et je pense que la clé, effectivement, bon, c'est, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est de bien se préparer et puis se dire peut-être que je suis légitime, laisser un peu la place à l'improvisation, c'est pas grave. Et en tout cas, le par cœur, je pense que quand tu présentes ton projet, même face à un recruteur, c'est pas l'idéal.
Ouais, d'être trop préparé ou trop apprendre mot pour mot. Et je le vois même des fois quand je fais passer des entretiens ou quand on dit la première phrase, bah, présente-toi. Là, on sent qu'il y a un récital. Et des fois, c'est vrai que c'est pas naturel. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, c'est toujours, j'aime bien la loi de Pareto, le 80-20, mais 80% où tu connais, tu maîtrises ton sujet, ton pitch, etc. Et 20%, c'est du impro, c'est du laisser aller.
Ouais. Ouais. Et puis il faut bien se connecter, je pense, avec son interlocuteur, ce qui est hyper difficile quand t'as 200, 300 personnes, parce que se connecter avec l'audience, bon,
c'est compliqué de trouver, en fait, enfin, on avait ça chez Google, trouver toujours un point, donc, trouver des personnes, trouver un point d'accroche avec la personne, ou avec soit une personne, soit avec un mot, soit avec des termes, soit avec la ville. Il faut toujours, en fait, essayer de contextualiser le projet, le pitch que tu veux, et là, en fait, t'accroches un peu plus les personnes.
Moi, j'ai une astuce qui marche plutôt bien aussi, c'est d'exprimer ce que tu ressens. Oula, ça fait beaucoup de monde, je suis un peu stressé, vous inquiétez pas, j'ai préparé mon texte, ou alors j'ai je me suis préparé, et puis t'enchaînes. Et en fait, de verbaliser ce que tu ressens, ça fait sourire les gens, parce qu'effectivement, je pense que quand tu prends la parole en public, il y a une certaine bienveillance qui se crée.
Ouais.
Les gens te donnent leur temps, c'est un peu la ressource la plus précieuse, donc t'as pas envie de... Voilà, donc ils sont là, ils sont connectés avec toi. Et c'est vrai que si tu exprimes tes émotions, je trouve qu'il y a une connexion qui se crée. Et moi, c'est une petite astuce que j'emploie beaucoup. Pour, tu vois, un peu briser la glace et puis lancer une prise de parole.
Même si c'est les premiers, enfin tu l'as dit, moi c'est vrai que la première fois, je dis, en fait c'est dans mes premiers pitch, donc soyez indulgent, ce sera peut-être pas parfait, mais en fait je vais donner le meilleur de moi-même. Et en fait de le dire, même, enfin je prends le parallèle avec les entretiens, je l'ai eu il y a pas longtemps, j'ai une étudiante qui m'a dit, en fait c'est la première fois que je fais un entretien, et je lui dis, trop cool, en fait, c'est trop cool que tu le dises, parce qu'en fait, je vais, si ça se passe bien, mais je vais te dire trop cool, s'il y a des choses à améliorer, et à la fin je lui dis, en fait pour un premier.
Je pense qu'on apprécie la sincérité, que ça soit en one-to-one avec une seule personne ou que ça soit dans une salle, effectivement. Et cette technique du pitch, que ce soit pour les entrepreneurs que tu vois à la télé, sur YouTube ou dans des événements, en fait, tu peux aussi l'appliquer, comme tu viens de le dire, en entretien, parce qu'il y a toujours cette phase où tu te présentes plus ou moins. Et je trouve qu'en entretien, ce qui est pratique aussi, c'est qu'au bout d'un moment, si tu t'essouffles, si tu perds un peu le fil conducteur, tu peux poser une question, du coup, tu renvoies la balle, et puis il y a un dialogue qui s'installe, et c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je pense que pour préparer un entretien, je fais une petite parenthèse, de préparer tout simplement des questions, c'est bien plus facile.
Et les questions sont appréciées des recruteurs, des personnes qui recrutent. En fait, c'est pas descendant, c'est pas une personne versus une personne, c'est aussi c'est un dialogue, c'est quelque chose. Et c'est vrai que je trouve que les questions, alors faut qu'elles soient pertinentes, faut pas les questions bateau et du coup pourquoi Exupéry ou autre, mais c'est d'aller un peu plus loin. En fait, j'ai vu qu'il y avait
pourquoi
ça.
Exupéry.
Pas santé. mais du coup, c'est bien d'avoir des questions et pas des questions bateau. Du coup, vous recrutez depuis combien de temps ou essayez de trouver la question et creuser le sujet.
Dans les méthodes de vente, souvent on parle de power question, en anglais les questions puissantes, tu vois. Et souvent c'est des, tu prends le QQO, QCP, une autre technique là, qui, quoi, où, comment, pourquoi, et tu commences déjà tes questions ouvertes par ce genre de mots-clés, c'est tout de suite plus facile. Comment va se passer ma période d'intégration chez vous? Ça montre de la curiosité, ça montre que tu as envie de savoir qui sera ton manager, comment vont se passer les premiers mois, tu vas pouvoir découvrir la culture de l'entreprise, et c'est très très puissant. Et les techniques de vente, je pense, appliquées pour gérer un entretien, parce que finalement il faut se vendre soi-même, c'est aussi très puissant. Et se vendre, c'est pas juste argumenter, au final. Je pense que quand tu vends tes formations, tu es bien obligé de le faire, ton gagne-pain, tu es obligé de poser des questions pour creuser le besoin d'interlocuteur et d'avoir conscience de ça, c'est
hyper important. Et je le dis toujours, mes formations, quand je fais des formations plutôt orientées sales, la phase de découverte, du coup, ce QQO, UCP, est hyper importante. Et vraiment, la phase de découverte, c'est ce que grille tout le monde quand on reçoit des mails, quand on fait des calls ou autre. Découverte, en fait, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon client? Est-ce qu'il a le bon besoin? Ou est-ce qu'on va créer le besoin? Hyper importante. Moi, je me rappelle, en bachelor, j'avais François-Xavier Petit, qui se reconnaîtra parce qu'il écoutera, je suis sûr, le podcast, qui parlait toujours de cette phase de découverte. Poser des questions.
Phase de calif, découverte, discovery, comme ils disent en anglais.
Voilà.
Et quand tu fais une bonne discovery, quand tu fais une bonne phase de découverte pour la vente, en fait, ça te permet du coup de comprendre les enjeux, les problématiques.
Et rebondir.
Un peu comme un médecin qui fait son diagnostic. S'il ne fait pas son diagnostic, il va te donner un médicament, c'est un peu flippant. Donc toi, si tu as un commercial qui vient vers toi et qui te propose tout de suite une solution sans même savoir quels sont tes besoins, c'est aussi pas terrible.
Je vais la réutiliser celle-là.
Je sais pas, mais tu vois,
je pense
qu'à un moment donné, tu vois, on a une sorte de plaie parce qu'on perd du temps, on manque de confort, il nous manque un outil ou il y a quelque chose qui ne va pas dans notre métier. On a besoin d'une pommade, tu vois, il faut guérir cette plaie. Et je pense que c'est ça qu'il faut chercher, c'est aller creuser, effectivement, en anglais on dit les pain points, mais les points de douleur chez un prospect, peut-être même chez un recruteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas de présence sur le web, vous n'avez pas de marketing digital, en étant smart, subtil, et on peut expliquer que voilà, je suis allé voir votre site internet. Moi, ce que je peux apporter comme valeur, c'est ça. Ah, c'est super, ça va nous faire gagner en notoriété, en visibilité. Peut-être on va avoir des opportunités. Et là, ça crée de la confiance, c'est puissant.
Oui.
Et effectivement, si on parle de ces techniques d'entretien, de ces gestions des recrutements et des conseils à donner aux étudiants, aux candidats, ça, c'est poser les bonnes questions, c'est très puissant.
Ouais. Bon pitch, préparé, mais pas trop.
Ouais.
Et bonne question. Ouais,
carrément. Et savoir faire un beau mail de remerciement.
Le classique.
Classique, comme un beau mail de compte rendu après un échange.
Comme un bon mail de candidature.
Bref, on va parler d'Exupéry un petit peu.
Voilà, donc là, on arrive au moment d'Exupéry. Donc, Exupéry, en fait, alors entre 2019 et 2020, je me mets freelance, indépendant, donc toujours pour Google. En fait, je facture pour Google sur des missions. en fait, des missions de formation, des missions de coaching jusqu'en 2019-2020. Et là, alors je me prends une année en 2019 pour me retirer un peu du digital où je m'adonne à une passion de la rénovation. Rénovation, j'ai une petite passion, ouais, j'en parlais. Mais j'aime bien cette partie-là de rénovation. J'aime bien en fait de créer et savoir utiliser mes mains autre chose que sur le digital.
Ouais.
Parce que le digital, c'est important, l'ordinateur, tout ça. Ouais. Mais aussi faire, je me dis, j'ai besoin de mes mains pour faire autre chose.
C'est ta soupape.
Voilà, dit. Exactement. Ouais. Et 2020, Covid, donc 15 mars d'ailleurs, c'était il y a 3 ans.
Ouais.
3 ans jour pour jour, c'est vrai que 3 ans jour pour jour, là on est confiné.
Ouais.
Et je me dis, ok, je suis confiné, le distanciel, ok. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Et c'est à ce moment-là où j'avais déjà une idée de boîte, de formation, d'organisme de formation, puisque ça faisait 3-4 ans que j'intervenais pour des organismes de formation aussi
ouais,
à côté.
C'est ton ADN du coup.
Ouais, j'adore ça, j'adore transmettre. Et depuis même plus jeune avec le basket ou d'autres choses. Et je me suis dit, ok, il va falloir que je monte quelque chose et que je crée une offre et que je fasse de la formation. Et je me dis, comment? Il faut que je monte quelque chose. Parce que freelance c'est bien, mais j'ai l'impression que les boîtes, si elles veulent prendre une formation, elles ont besoin aussi d'une structure. Et du coup, à l'époque, on avait besoin du Datadog, donc qui était des certificats de Calliope, des choses un peu plus structurées pour accompagner des boîtes. Et là, je me dis, ok, confinement.
Datadog ou Datadog?
Datadog.
Ah, okay.
Datadog, ouais, c'est une chose. Datadog, c'était le certificat pour faire d'accord. des formations auprès des entreprises.
Ok, je vois. Ouais.
Et
avant Calliope, du coup.
Ouais, avant Calliope. D'accord, donc, okay. T'as Datadog et maintenant, t'as Calliope.
Ah oui, je crois qu'on disait même... C'est bon, ils sont datadoqués.
Exactement.
On
ouais,
créé
c'est
un mot autour de ça.
Ouais.
Bon, maintenant, avec Calliope, ça marche pas. Quoi. Ils sont Calliope.
Calliopisés. je suis sûr que sur Google, il y en a qui ont projeté. Et je me dis, ok, je monte la boîte. Confinement. Donc, confinement, bah, du coup, tout en ligne. Donc, trouver un comptable en ligne, pire erreur de ma vie, de la vie de la boîte. Trouver toutes les infos en ligne pendant le confinement. Donc, c'est-à-dire que monter une boîte en plein confinement, ça prend pas une semaine comme aujourd'hui, ça prend 3 mois. Donc, je monte, donc je trouve le nom, je me dis, Exupéry, intéressant.
La petite blague avec ton prénom.
Ouais, avec mon prénom. Et en fait, pour l'histoire d'Exupéry,
voilà.
je cherchais un nom qui soit reconnaissable. Et je me dis, ok, j'ai cherché. Et je me dis, Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, c'est aussi un personnage. C'est quelqu'un qui a eu 1000 vies.
Hyper inspirant.
Hyper inspirant. Du coup, j'ai relu Le Petit Prince. Ouais. Je me suis dit, hyper intéressant. C'est quelqu'un qui faisait plein de métiers, qui était un peu slasher, qui faisait plein de choses,
ouais.
qui allait transmettre de l'information, parce qu'en étant postier, à un moment donné, il allait transmettre de l'information, faire de la formation, transmettre. Et je me dis, ce côté transmission, je l'ai toujours eu et j'adore. Et du coup, je me dis, tiens, Antoine de Saint-Exupéry, il a le côté transmission, il a le côté touche à tout, il a le côté hyper curieux, il a plein de choses qui sont un peu les valeurs aussi d'Exupéry aujourd'hui. Et je me dis, trop bien, je l'appelle Exupéry. Et c'est venu assez rapidement en fait. Franchement, en une semaine, j'ai pas eu besoin de faire un brainstorm parce que je suis tout seul chez moi,
ouais.
comme tout le monde à ce moment-là. Mm. Et je lance Exupéry. Et la boîte, officiellement, elle a été enregistrée en mai 2020.
Et t'as été à l'INPI, posé Exupéry, c'était utilisé dans ta...
Non, au début. Non, si. En fait, au début, je me dis Exupéry, est-ce que c'est pris, c'est pas pris? C'est pas grave, en fait, je tente exupéry.io, parce que ouais. le .fr.com est pris.
Ouais, comme grim.io, on n'avait pas le .fr. Je crois que le .fr, on voulait vendre 5 000 euros ou quelque chose comme ça.
Enfin, Exupéry, qui était un nom utilisé, ouais. Je me dis, au pire, je changerai de nom. Au pire, c'est pas grave, en fait, je lance
ouais.
et on voit, en fait.
Tu sais ce que ça veut dire le .io ou pas?
Non, même pas. En fait, à chaque fois, je sais qu'on.
Tu vois des boîtes tech avec.
On m'a dit, ouais, c'est le point plutôt tech. Il ouais. N'y a pas une histoire d'italien, non?
En fait, je crois que IO, ça correspond aux acronymes du Nil aux Antilles. Mais qui n'a rien à voir avec la tech, tu vois, tous les okay. points, quelque chose, c'est lié à des pays.
Ouais, .fr.org.
Je ne sais plus c'est quelle île, mais en tout cas, le I et le 0, c'est un interrupteur.
Ouais.
Tu vois,
ouais.
I allumé, 0 éteint. Donc technologique, 0, 1, tu vois.
Ok.
Point IO, ça vient de là.
Je vais la ressortir.
Non, mais ça vient vraiment de là.
Non, ok.
Je crois, alors il me semble, hein, ou alors. Non, il me semble que ça vient de là. Mais en tout cas, ça okay. fait sens.
Bon, c'est pas un paradis fiscal.
Non, mais ouais, c'est une île aux Antilles et ça vient de 0, un interrupteur ouvert et 1, un interrupteur
okay.
fermé. Peut-être l'inverse, mais
ouais.
Ouais. Normalement, ça doit être ça.
Non, ouais, c'est ça, je crois.
Plus de faire un podcast, mais faut pas trop le dire.
Mais ok, bah, du coup, .io. Donc, exupéry.io, on l'a déposé après le exupéry.io ouais. il y a pas longtemps, il y a 6 mois.
Et tu t'es pas soucié de. Mais ça, c'est aussi un conseil que je donne Enfin, j'aime pas donner des conseils non sollicités, mais je pense qu'il faut le dire quand tu montes une boîte, faut pas trop se mettre la pression sur déposer sa marque, faire son étude de marché, son business plan. Au début, on fonctionne beaucoup, je pense, à l'instinct, à l'intuition, ouais. et ce qui compte le plus, c'est d'aller chercher sa preuve de concept. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Si Exupéry, d'avoir le .io, une petite landing page, un site internet, ça te permet d'avoir une vitrine et que tu prends ton téléphone et que tu trouves un client, c'est bon. C'est ton projet.
C'est marrant que tu dises parce que la petite histoire, exupery.io, donc du coup, nous, on est un organisme de formation et aussi on fait du marketing de stratégie digitale pour des boîtes. Pendant un an, on n'a pas eu de site internet.
Ouais.
C'est pour une boîte dans le digital, pour une boîte qui fait des formations, pendant un an, on n'a pas eu de site parce qu'en fait, mon focus, c'était pas ça. C'était de monter, structurer et animer des formations et de faire développer la boîte. Et en fait, on n'en a pas eu besoin parce qu'on avait assez de clients. Après, il y a un moment donné où tu n'as pas le choix. Mais en fait, au début, l'objectif, c'est tu testes ton marché.
Et ça, je pense que ça vient un petit... Alors, je ne sais pas si c'est une hypothèse, hein, mais ça vient peut-être de ton ADN Google, de ton expérience chez Google. Parce que moi, je crois que j'avais écouté ça sur un podcast. Je crois que Google, c'était une des meilleures boîtes dans la tech pour lancer des projets. Ils avaient des équipes dédiées pour lancer de nouvelles choses, faker, hein, faire des faux trucs, des prototypes, tester jusqu'à sortir quelque chose d'extraordinaire. Et...
Culture de l'innovation, culture de la boîte. Et Google, en fait, sortent plein de projets qui ne marchent pas.
Ouais.
Ils ont même un site qu'il faut regarder. Vous tapez Google Cimetière. Et en fait, il y a une page qui enregistre toutes les fakes de Google. Mm-hmm. Le dernier en date, Stadia. Google Stadia. Stadia, c'était le projet pour révolutionner le jeu vidéo. Ils ont investi des milliards dessus. Et ça doit être Google Symmetry ou quelque chose.
J'ai tenté un Google.RIP, Rest in Peace, mais ça n'a pas marché.
Non, ça ne marche pas. Et en fait, ils ont plein de projets. Enfin, Google et Google Glass, tu l'as dit. Ouais. Google Plus, le réseau social. Ouais, Google Stadia, plus, les jeux vidéo. Ils en ont plein comme ça. En fait, on se rend compte de Google parce que YouTube, parce que Waze, parce que c'est une grosse boîte. Mais en fait, derrière, ils ont
Google Hangouts.
Ouais, Hangouts, par exemple. Il y en a plein.
Il y a 14 pages avec une dizaine d'outils. Mis à la poubelle.
Et c'est un
mais
peu,
c'est peut-être des idées de start-up, c'est peut-être des idées de projet, tu vois, à relancer.
Mais d'où Google, où c'est vrai que c'est toujours cette culture de ok, on teste, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on regarde ce qui n'a pas marché, on adapte et voilà. Et c'est vrai que c'est très ancré chez Google, cette culture de l'innovation et culture du test and learn. Bon, après, avec la puissance de Google, mais.
C'est ce qui t'a servi chez Exupéry à l'amorçage, en tout cas, c'est ce que tu avais en toi. Quoi.
C'est ça. Ouais. Et moi, je n'avais pas, comme beaucoup, enfin, comme certains entrepreneurs aujourd'hui, où je n'avais pas à cette époque-là le chômage, je me suis dit, en fait, j'y vais. Et en fait, il faut que je tape. Ouais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bon, je reprends une activité de freelance ou je repars en salarié sur une autre activité. Mais ouais. Et confinement aussi à cette époque-là où c'était un peu plus compliqué. Mais le confinement nous a en fait aussi bien aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'aide et beaucoup d'accompagnement sur de la formation dans le digital. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'aide dans le digital. Et c'est aussi le début d'Exupéry, c'est grâce à des appels d'offres sur de la formation dans le digital.
Tu vas aller chercher où tous ces appels d'offres? Tu fais ta veille,
Alors là, c'est le début d'Exupéry est parti sur un appel d'offres avec une boîte nantaise, donc Talenco, un appel d'offres avec un autre groupe d'Evoteam pour un gros client, qui est le gros client Page Jaune sur local, où on devait animer des formations. Donc là, en fait, j'ai été grâce à mon réseau, là c'était plutôt réseau et LinkedIn.
Ouais. T'avais vu un appel d'offres passer
On m'avait sollicité pour l'appel d'offres. On m'a dit, en fait, on fait des formations sur le marketing digital. On m'avait repéré comme ça et on m'avait dit, du coup, t'as une structure. À ce moment-là, j'ai dit, bien sûr, alors que j'en avais pas forcément une, elle était en cours de création. On m'avait dit, oui, t'as une structure.
Un petit peu bien sûr.
Vous êtes combien? Ouais, on est une équipe. Et à l'époque, le confinement, je monte la boîte tout seul. Et je dis, oui, on va. Vous êtes capable de faire une formation pour 150 personnes pour... Bien sûr, j'ai fait ça pendant.
Sur le temps.
Voilà. Et en fait, c'est comme ça que c'est passé. Et la petite histoire, c'est pour ce groupe. Si je leur avais dit, je suis en face de d'énormes boîtes qui ont 100 ou 200 personnes. Moi, je suis une petite équipe avec Antoine et moi, donc qui fait une seule personne.
Peur d'y aller, hein.
Et j'y vais et je me dis, qu'est-ce qui va faire la différence entre un grand groupe et moi? J'ai eu mon côté peut-être innovant, côté un peu où je vais tout maîtriser de A à Z, alors ça peut paraître gros. Et surtout, je leur ai dit, est-ce qu'on ferait pas la même formation sur l'appel d'offres? Est-ce que l'appel d'offres serait pas. J'ai un peu retourné l'appel d'offres. Hein. Je dis, est-ce qu'on ferait pas la même formation, exactement la même, Exupéry et les deux autres boîtes, et qu'à la fin, vous prenez la boîte sur laquelle il y a le meilleur taux de satisfaction? Je dis, en fait, c'est légitime pour vous. Nous, en fait, je me dis, je me mets une balle dans le pied, ça marche pas, mais tant pis. Je dis, pour vous, l'intérêt, c'est que.
Tu testes ton concept.
Voilà, je teste mon concept et je leur dis, on fait la même offre, on fait la même contenu, tous les trois, et celui qui a le meilleur taux de satisfaction, il gagne l'appel d'offre pour former les 400-500 personnes après.
And the rest is history. À mon avis, t'as gagné.
Exactement. Ouais, voilà, j'adore la raconter parce que je dis, en fait, j'ai testé, et du coup, on a pu accompagner pour ce local, on a pu accompagner, on doit être à 400 ou 500 personnes formées. Incroyable. Par petits groupes de 8. Ouais. Donc c'était par petits groupes en distanciel, la boîte. Et on continue encore aujourd'hui.
Et du coup, Tu devais être super content à ce moment-là. C'était... Ça y est, tu avais ton
c'est
projet.
Ce qu'a, voilà, c'est ce qui a lancé la boîte, ouais. qui a permis de recruter le ouais. premier, deuxième, deuxième personne ouais. dans l'équipe. Ouais.
Vous êtes combien aujourd'hui ?
Là, aujourd'hui, on est trois. En ouais. fait, on est trois, on va dire, en salariés. Et après, en fait, on travaille beaucoup avec des freelances, des sûr. Indépendants. On va dire qu'on a un pool de 20 freelances, mais en temps plein, on est à un ou deux freelances qui interviennent sur des projets ou sur des formations.
Tes ouais. deux collaborateurs, ce sont des associés ou...
Non.
Non, ok. Ouais, donc, t'es toujours solo founder.
Voilà, solo founder, ouais, comme on dit. Mais en fait, je me suis toujours jamais fermé la porte de dire s'il y a une association, mmh. s'il y a quelque chose à faire avec quelqu'un d'autre, parce que là, ça fait 3 ans, mmh. la boîte, donc elle cartonne c'est toujours autant, et ça, c'est trop cool. Mmh. Mais peut-être au bout des 3 ans, et surtout au bout de 3 ans, de se dire, en fait, ouais. est-ce qu'on n'ouvrirait pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres...
C'est intéressant ce sujet-là du solo founder, de la personne qui monte sa boîte tout seul, parce que je vois beaucoup de personnes un peu en stress, en quête d'un associé, en quête d'un cofondateur, mmh. mais finalement, ça ne t'empêche pas d'avancer. Et je pense que, du coup, tu peux... Moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu fais des choses et à un moment donné, comme tu le dis, tu ne fermes pas la porte, peut-être que demain, tu auras une personne à qui tu collabores, un partenaire ou tu lances un produit un peu plus tech, mm-hmm. Tu passes avec un développeur et puis finalement, tu, par clairvoyance, vous allez vous associer. Et trouver un cofondateur, c'est déjà faire des choses.
Ouais, bah, je suis entièrement aligné là-dessus. Et le confinement a fait que je n'ai pas forcément eu l'occasion de trouver un cofondateur au début d'Exupéry. J'aurais bien aimé. Mais je me suis dit, en fait, il y a un moment de temps, il faut y aller. Et ouais, en fait,
puis ce qui est bien dans ton univers, c'est que puisque tu fais des formations, tu as du lien social. C'est-à-dire que tu n'es pas isolé.
Ouais.
Il n'y a rien de pire que d'essayer de lancer un. Par exemple, moi, je suis toujours dans l'univers du logiciel parce que je baigne dedans, mais lancer son logiciel pendant 6 mois dans sa chambre tout seul.
Wow.
C'est
ouais, faut être courageux. Ouais, faut être pied, courageux.
Franchement, je connais pas beaucoup d'histoires de solo founders sans avoir de lien social comme ça. C'est
ouais.
En plus, tu te mets dans ta bulle et tu perds ta clairvoyance, je pense. Ouais. C'est moi, ça me ferait peur quoi.
J'aurais pas pu. Ouais.
Parce que cette solitude du dirigeant slash entrepreneur, elle est omniprésente tout le temps. Faut vivre avec. Ouais. Même quand t'as des associés, d'ailleurs, ça peut arriver. Mais oui, effectivement, là, le fait que tu fasses des formations, je pense que ça t'a...
Surtout en temps de Covid, en plus, ouais. où on avait une vision à une semaine. Ouais. Une semaine, une sur l'autre, ouais. vous sortez pas, et en fait, la boîte, c'était pareil. Ouais. Vous avancez pas. Et en fait, à ce moment-là, en fait, on a tellement peu de visibilité qu'il fallait y aller,
ouais.
que maintenant, on a plus de visibilité. Le Covid, c'est fini. Enfin, bref.
Et je vois que tu utilises beaucoup LinkedIn. Au démarrage, ça t'a servi aussi ? Tu l'as utilisé quand t'as lancé Exupéry ?
Alors, LinkedIn, j'utilise depuis... je sais pas, mais ça vient à faire 6-7 ans. Alors, j'ai utilisé Viadeo. Oui, j'ai utilisé.
Moi aussi, un peu
j'ai utilisé Viadeo. Bon, malheureusement.
Ils ont coupé le coche, hein, parce qu'ils avaient une bonne idée. Hein. Je sais pas ce que ça devient. Je sais pas
ils ont été rachetés par un groupe CCM Benchmark. À partir... Il y a le Figaro qui est derrière un petit peu. Okay, bon. Mais bref, ouais. LinkedIn, en fait, au début, m'a énormément servi. Surtout en fait, pendant le confinement.
Ouais.
Parce que toutes les personnes se sont dit comment faire pour parler, comment faire pour entretenir son réseau, comment faire pour faire du business. Et à ce moment-là, j'étais déjà assez alert sur le réseau. Et LinkedIn, aujourd'hui, on doit faire 10 formations par mois sur LinkedIn encore.
Trop bien.
Et LinkedIn, ouais, c'est... En fait, aujourd'hui, on n'a pas, pas le choix de ne pas être sur LinkedIn.
Non, mais moi, tu vois, pour mon histoire personnelle avec, la société Grim qu'on a créée avec mon associé il y a 2 ans, j'étais en poste, j'ai eu une bonne idée de se dire, bah tiens, un CRM pour gérer les ventes, c'est très puissant. On n'a qu'à faire un CRM pour le candidat parce que savoir se vendre, c'est aussi hyper important. Et du coup, je l'ai fait en no-code, un prototype. Et en fait, pour valider mon idée, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis la vidéo sur LinkedIn, elle y est toujours d'ailleurs.
Okay.
Et je l'avais fait sur Airtable. D'ailleurs, si vous avez une idée, un prototype à lancer, Airtable, c'est super cool. Il y a même, je crois, une belle version gratuite assez puissante. On peut avoir des crédits. Et une petite vidéo Loom en bas avec ma tête, que tu connais bien, j'imagine, tu dois l'utiliser.
Loom aussi, très pratique.
Ouais, et je le mets sur LinkedIn. Et là, alors, je ne vais pas dire que ça a fait le buzz, mais j'ai eu, je pense, une centaine, 200 interactions. Avec plein d'encouragements, en mode super, des gens qui se taguent, ça peut aider telle personne qui cherche un emploi, machin. Je me dis, il y a un truc à faire. Et puis, en plus, moi, j'ai lancé Grim pendant le Covid aussi, et je voyais tellement de personnes en difficulté, réorientation professionnelle, reconversion, aidez-moi, je trouve pas d'alternance, j'ai envoyé 200 CV. Bah, en même temps, c'est normal, là, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est peut-être la qualité, il y a un problème, je peux t'aider. Donc, tu vois, ça m'a tellement stimulé de me dire, on peut aider ce genre de personnes et avoir de l'impact. Et que c'est ça qui nous a stimulé au démarrage. Et c'est vrai que LinkedIn m'a servi de validation pour lancer Grimp personnellement. Je dis pas que je l'ai comme on dit en anglais, building public. Je ne l'ai pas forcément construit, on l'a pas forcément, je dis jeu, mais on l'a pas, maintenant on le dit, on l'a pas forcément construit sur LinkedIn, tu vois, on n'a pas non plus, parce qu'il y en a qui, je trouve ça hyper intéressant, des gens qui lancent leur business et qui documentent tout, tu vois, ouais, sur YouTube, sur LinkedIn, c'est super stimulant et inspirant. Et bon, après, c'est des ressources, hein. Nous, fallait vivre au début, donc on était plus focus sur le produit et sur les clients. Mais si tu arrives à faire les trois et construire en public, je trouve que c'est pas mal. Faut pas avoir peur de se faire un peu copier, même si c'est une bêtise. Mais ouais, ouais, LinkedIn, c'est, je pense que quand tu veux lancer un projet, ça te permet de valider ton idée.
Ouais, c'est ça. C'est, en fait, ça te permet
par
de tester.
Exemple, c'est un exemple, il y a d'autres moyens.
Tester sur un marché que tu connais pas forcément et ça te permet de valider ton idée à des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Mm-hmm. Au moins, tu postes, tu dis OK, bon, j'essaye, ça marche, tant mieux, t'as l'attraction, t'as du monde.
T'as même pas besoin de t'embêter à faire un site web, aller à l'INPI, faire une étude de marché, voir un business plan. Ouais. Un business plan, je l'ai fini, tu vois, il y a quelques jours, 2 ans que je suis dessus, plus ou moins, une corvée. Il est top là, on m'a bien aidé.
Okay.
Et là, je peux le porter. Mais c'est vrai que si j'avais commencé par faire ça, en plus, je pense que c'est hyper important de savoir quelles sont tes forces et quels sont tes points d'amélioration. Typiquement, ma force, ça n'a pas forcément été d'aller sur Excel au démarrage d'une boîte, c'est pas ce qui m'a stimulé. Et quand on envoie un entrepreneur faire son business plan pendant 3 mois, faire son étude de marché pendant 3 mois, financé par peut-être le chômage, et derrière après, tu n'as peut-être plus de chômage, tu n'as même pas le temps d'amorcer ta boîte. Je fais un focus là-dessus, mais je pense que tu as fait un bon démarrage et c'était clairvoyant d'aller te connecter tout de suite à ton marché.
Oui. Bah en fait, au début, tu es obligé de passer par cette étape. C'est, il faut tester. En fait, c'est ce que je le dire souvent, mais il faut tester. Et c'est que en testant que tu verras. C'est, nous, j'ai monté des projets qui n'ont pas du tout marché. Ouais. Plein de choses qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave. En fait, j'ai testé, j'ai appris. Bon, qu'est-ce que j'ai appris ?
On perd un peu d'argent. Mais...
Ouais. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, on peut pas se dire, on a des idées, on peut pas les lancer. C'est vrai que créer une micro-entreprise, ça coûte pas grand-chose et ça n'engage à rien.
Je l'ai fait 2 fois, j'ai jamais facturé. Voilà, j'étais 2 fois auto-entrepreneur. D'ailleurs, je suis un peu bête parce que la première fois, j'avais demandé une LACRE.
LACRE, il n'y a rien de mieux.
C'est tu.
T'es exonéré de charges sur la première année, c'est dégressif sur les 3 premières années.
Je l'ai activé la première fois, je ne l'ai pas utilisé, c'est dommage parce que j'aurais peut-être pu l'utiliser avec Grim, j'en sais rien.
Le micro-entreprise permet de créer une entreprise, micro-entreprise. Avec LACRE, on est exonéré, c'est-à-dire qu'en fait, la première année, tu peux tester, facturer en fait, t'es exonéré de beaucoup de charges.
Ouais.
Alors après, tu passes sur un modèle de société, mais même créer une société et autres, c'est avec les outils, avec Legal Start.
Ouais, on l'avait fait avec Legal Start. On a revu un peu le statut, mais.
Pareil, en fait, c'est bien pour commencer. Début, pareil, tu commences avec Legal Start, puis après, t'ajustes, mais exactement pareil.
Ouais. Ça, c'est top.
Donc LinkedIn, obligatoire. Aujourd'hui, on est quand même 25 millions en France d'être sur LinkedIn, donc c'est 25
millions.
Ouais. 25 millions, c'est énorme. Enfin, LinkedIn, avant le Covid, on était 15, 16, 17 millions. On est passé à 25 là.
Une accélération énorme.
Mais en fait, c'est
alors. Quel type de métier maintenant même.
Ouais, ouais.
Ah, c'est devenu un réseau social plus qu'un réseau professionnel maintenant.
Ouais, maintenant. Et en fait, il y a plein de secteurs qui n'ont pas forcément d'intérêt sur LinkedIn, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la restauration, dans les traiteurs, pas que le tertiaire et le digital. Carrément.
Ah, tu vois, c'est rigolo. Ma copine, elle m'a dit, tiens, je vais peut-être me mettre sur LinkedIn. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi ? Elle est infirmière anesthésiste. Elle me dit, tu sais, on fait un peu de recherche. j'ai envie de voir un peu faire ma veille. J'ai envie de voir, il y a des chirurgiens, des médecins. Je ne savais même pas qu'il y avait ce monde-là un peu sur LinkedIn. Tu vois, il y a des secteurs, des métiers comme ça qui, je pense, qui vont aussi avoir une petite place, même dans l'industrie.
Ouais, même dans l'industrie.
Il n'y a pas que la tech et le digital.
Des fois, c'est difficile à montrer aux gens, c'est qu'il n'y a pas forcément que des boîtes de tech, que des boîtes du digital, que des boîtes du tertiaire qui sont sur LinkedIn. Au contraire, après, il y a des boîtes qui n'ont pas du tout d'intérêt dessus et ça ne sert à rien de les encourager là-dessus s'il n'y a pas d'intérêt. Mais
ouais, c'est un point d'entrée aussi. Ouais. C'est pratique. Du coup, c'est quoi Exupéry ? Tu peux nous faire le pitch en quelques phrases, la proposition de valeur ?
Ouais, on aurait pu la faire même avant, c'est vrai qu'on arrive à...
Non, il y a un peu de temps encore.
Exupéry, on va dire qu'on a deux casquettes. Première casquette, c'est on est un organisme de formation, donc Calliope, donc on est certifié par Calliope. Donc c'est-à-dire que nos formations sont... on peut financer via les OPCO, les opérateurs de compétences d'entreprises. Et on a un organisme de formation sur les métiers du marketing digital. C'est-à-dire qu'on va former les collaborateurs des entreprises sur des thématiques du marketing digital. Ça peut être LinkedIn, la création de contenu. Donc dans LinkedIn, on a une dizaine de formations. avec la partie sales, donc vente, avec du scrapping, avec création de contenu. Bref, on a LinkedIn, on a du référencement naturel, donc le SEO, du référencement payant, le SEA, on a de l'analytics, on a du tracking, on a des formations plus de stratégies marketing digital, on a des stratégies sur les réseaux sociaux. Et en fait, on englobe tous les métiers du marketing digital. Aujourd'hui, nous, notre force, c'est on est capable d'animer des formations, soit en interne, soit on va trouver un expert, on va trouver grâce à notre réseau quelqu'un qui peut le faire sur, voilà, sur des thématiques bien précises. Donc, c'est des formations qui vont de un jour à une semaine maximum, où vraiment on est sur des formations uniquement pour une entreprise. On ne fait pas de formation multi-entreprise. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est sur mesure et des formations qui soient concrètes et qui soient vraiment impactantes. Des formations où on va être à 10 boîtes, où on ne va pas oser poser sa question, on ne fait pas.
Ouais. Et tu l'as digitalisé aussi, ce parcours de formation?
On l'a digitalisé. Donc, on a une partie aussi du e-learning dessus. On a digitalisé une partie. Donc, ça, c'est la première brique. Et deuxième brique, on a toujours le côté... agence, enfin, on ne se positionne pas vraiment comme agence, mais on crée des stratégies, on fait du contenu, on a, si on peut le dire, une agence en marketing digital. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un site internet pour faire un site internet et le vendre 1000 euros une fois, on va plutôt répondre à des projets, des gros projets, et on va monter le projet. Là, le projet sur lequel on est en ce moment, on est sur la création de 50 sites internet pour un groupe. Donc là, ce n'est pas un petit projet. Et là, du coup, on a monté une équipe, on monte une structure, notamment avec Tristan, avec Lola, avec d'autres personnes, sur ce projet-là. Donc là, 50 sites, c'est un projet à 6 mois, 1 an. C'est un gros projet qu'on monte, on construit et on délivre.
Vous sortez les 50 sites d'un coup ou progressivement?
Là, on en a sorti 30, c'est marrant, 30 hier. D'accord. Et on en sort 20. Ah, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va répondre sur des gros projets dans ce type-là.
Et du coup, c'est quoi ta vision pour Exupéry dans les prochaines années? Est-ce que tu vas rester sur ces deux verticales? Ou tu vas peut-être centraliser une seule offre, un seul produit. Comment tu vois l'avenir d'Exupéry?
Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, on va rester sur les deux verticales parce que je trouve important de garder la main sur le terrain donc avec l'agence pour faire des formations derrière. Parce qu'il n'y a rien de pire que perdre la main sur les nouveautés, sur ce qui se passe. Donc on va garder ces deux briques-là pour l'instant sur la formation. On va digitaliser encore plus la partie formation. Donc on l'a commencé avec un e-learning dédié à LinkedIn. On réfléchit à encore digitaliser sur du e-learning sur d'autres thématiques. Donc sur des thématiques par exemple réglementaires, sur Google Analytics qui passe sur une version, une version 4 où on a beaucoup de sollicitations. Et en fait, on prend des besoins, là on a beaucoup de sollicitations sur une thématique et on se dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas digitaliser cette partie-là. Donc c'est là-dessus qu'on réfléchit pour l'instant.
C'est hyper connexe de toute façon.
C'est ça. Donc là on se dit, on a des besoins et si on a des besoins, est-ce qu'on ne peut pas répondre à une partie des besoins avec ça? Ou notre e-learning doit aussi servir en amont de certaines formations pour être sûr du niveau des personnes. Parce qu'on a les fameux tests de positionnement, mais chacun met un peu ce qu'il veut. Nous ce qu'on voit c'est préparer un petit learning d'une heure ou deux heures pour être sûr que les personnes qui viennent en formation aient tous à peu près le même niveau et arrivent en formation, on n'ait pas besoin de redire en fait ça sert à ça, ça sert à ça. Au moins, on peut vraiment avoir quelque chose d'impactant avec une personne en face de soi pendant 7 heures ou une journée.
Et je sais que tu travailles aussi un peu comme nous avec nombreuses écoles.
Carrément.
Tu as un lien avec l'éducation, ce que je trouve formidable.
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais dans les écoles? Qu'est-ce que tu apportes aux écoles?
Alors, je suis intervenant en école depuis 2015 à peu près. Donc, j'ai commencé avec des écoles de commerce, d'écoles en digital. Aujourd'hui, j'interviens pour 4-5 écoles sur des formations en marketing digital et sur des formations plutôt orientées sales. Donc, dans les écoles, on retrouve une nantaise, Audencia, à l'EDEC à Lille sur un master en data analyse, Excelia qui est une école sur La Rochelle, donc des écoles plutôt orientées commerce et digital.
Okay. Et j'interviens. Tu fais un cours sur les méthodes de vente?
Pour Audencia, d'accord, par exemple, dans la majeure business dev, donc j'ai une majeure plutôt orientée business dev, un cours sur la partie sales, vente, business dev.
Okay.
C'est LinkedIn, scrapping, enrichissement de base de données, vente, mailing, etc.
Ouais. Super. C'est bien, c'est dans l'air du temps. Parce que le pire, c'est de faire une école de commerce et de ne pas être en capacité d'aller décrocher un contrat, un client. Et on le voit beaucoup. Sans citer aucune école, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de faire une école de commerce et de ne pas savoir vendre, parce qu'en plus c'est quelque chose de fabuleux de pouvoir aller chercher des clients et apporter de la valeur à une entreprise par exemple. C'est top de faire. Donc, ça, tu fais toi-même du coup
Là j'interviens moi-même et je prends pas mal de plaisir à le faire pour des étudiants. Je faisais dans beaucoup d'écoles avant. J'ai réduit un peu le scope d'écoles, plutôt sur la région, un petit peu sur Paris, mais des écoles sur des modules de entre 10 heures et 30 heures maximum, Où là, vraiment, c'est 30 heures, on y va à fond. On fait des... Je suis plutôt sur du pratique, mais on va dire classique, mais ouais, avec des cas d'entreprise. Ouais.
Ça te demande un peu de préparation, j'imagine.
Ouais, pas mal de préparation. C'est des fois, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est la préparation, ouais. La mise à jour. Mes supports entre cette année et l'année prochaine seront différents. Ouais. Parce que, en fait, les outils dans le digital, en fait, si le digital, t'es pas hyper alerte. En fait, tu es dépassé en 2 secondes. Enfin, si tu fais une formation LinkedIn en 2019 et en 2021, il y a tellement eu d'évolution qu'en fait, tu peux pas faire une formation à les étudiants et leur dire, bah, en fait, faire un post, faire ci, faire ça, alors que l'algo, il a changé 3 fois. Et en fait, tu es obligé d'être alerte. Je veux dire, c'est un peu le problème du digital, c'est que tu es toujours obligé d'être en veille tout le temps. Ouais. Parce que tu fais une formation, je sais pas, sur du management, sur des méthodes agiles ou autres.
Bah, y a toujours les fondamentaux.
Il y a toujours des fondamentaux dans le marketing digital, c'est-à-dire que le SEO, ça a pas changé grandement depuis 5 ans ou autre. Mais il faut toujours être en veille de ce qui se passe. Si aujourd'hui, tu ne maîtrises pas ChatGPT, j'ai n'importe quoi pour créer du contenu, bah, il faut quand même être en alerte dessus. Il faut, maintenant, on pourrait dire Nasvin, ChatGPT 4 là, qui sort. Ouais. Je vais m'y mettre dessus pour voir comment ça marche.
Bien sûr, il faut être curieux.
Ouais, il faut être curieux. Et curieux, alors ça, c'est mon premier, enfin, des qualités, quelque chose qui est recherché, c'est d'être curieux. Ça vaut pour des étudiants, pour n'importe qui, être curieux, savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Et je suis hyper curieux, j'adore poser des questions et la curiosité, vraiment, c'est top. Ah.
Combien ça coûte du coup Exupéry? Ça dépend, j'imagine, du modèle.
Une formation?
Ouais. Ça peut être gratuit du coup, j'imagine, pour les étudiants ou...
Alors, quand on fait des formations, formations en école, c'est effectivement, nous on a des contrats avec des écoles. Donc ça, pour les étudiants, bien sûr, c'est gratuit. D'accord. Et les formations après qu'on propose pour les entreprises, c'est des formations qui sont forcément payantes, qui vont de, on va dire, de 500 euros à 1500 euros la journée pour donner une fourche. Une fourche fourchette, là, parce que 500, 1500. Et nos formations, en moyenne, elles sont financées par les OPCO.
D'accord.
C'est-à-dire que nous, vu qu'on est Calliope, elles sont financées. Okay. C'est une petite valeur ajoutée. On n'en fait pas que ça, mais elles sont financées. Donc ça, des fois,
Et ton la première fois que je le demande, mais ton module e-learning là, t'aurais pas un petit code promo à partager?
Un petit code promo, ça y est, ça vient gratter. Ouais, non, on se conseille. Donc nous, on a un module de e-learning, on a monté une formation e-learning dédiée sur LinkedIn.
D'accord.
Dire qu'on va, on va dire qu'on a 5 modules dans ce e-learning sur comprendre LinkedIn, déjà, toutes les fonctionnalités. Parce que même quand j'ai la petite histoire, mais quand j'interviens dans des écoles, des fois des grandes écoles en dernière année de master. Quand on me dit oui, LinkedIn, je connais, et qu'en fait, quand on demande ça veut dire quoi, le petit 2 ou le petit 3 à côté du nom,
oui,
bah, c'est qu'en fait, c'est le deuxième ami. Non, c'est juste que c'est le réseau. Et en fait, je me rends compte que des fois, certaines bases sont. Et je me suis dit, OK, il faut mettre en place un e-learning. Donc, ce e-learning, on a 5 parties. Une partie fonctionnalité, une partie profil, on va dire, une partie contenu, une partie algo. Et une partie aussi sales, plutôt comment contacter quelqu'un, comment faire une approche, comment trouver son mail, comment trouver son téléphone, comment automatiser une prospection. Donc on a 5 modules. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on le vend, ce e-learning, à des entreprises, à des écoles. Et on peut le mettre en place. Donc là, avec Grimp, on s'est dit que pour ceux qui écoutent le podcast, on va le mettre à disposition de tous les étudiants ou les personnes demandeurs d'emploi. Pour mettre à jour leur profil LinkedIn et pour bien comprendre LinkedIn, on va leur mettre accès, on va leur donner accès en illimité à Grip.
En gratuit.
Ou en gratuit, ouais.
Okay.
Carrément. On l'a proposé aussi, on l'a proposé à Pôle Emploi. On a des discussions aussi avec Pôle Emploi, comme vous, je sais que vous êtes sur l'Emploi Store, pour en fait le mettre à disposition de ces personnes.
Okay.
Donc une partie, c'est-à-dire c'est 80% après du contenu vidéo,
c'est top.
On le met à disposition pour qu'en fait ces personnes aussi l'utilisent. Mettre à jour leur profil LinkedIn et puis nous on a un certificat
aussi. C'est peut-être tes clients de demain parce que derrière c'est vertueux. Ouais.
C'est un peu cette approche où on du freemium, où on donne du contenu, on donne de la valeur et après s'il y a une personne qui revient, tant mieux, et si elle a appris, tant mieux.
Bon, c'est top, donc il n'y a pas besoin de code promo finalement.
Donc alors on a un petit code promo, on a un petit code promo qui est... on va créer un code promo spécial Grimp.
Ok, allez, super.
On le mettra dans les commentaires, on le mettra dans le lien.
Bon longue vie à Exupéry. Qu'est-ce que tu en penses des CV placardés sur LinkedIn?
Alors, qu'est-ce que tu entends par placardé?
C'est vrai que c'est brutal, c'est une question biaisée. Qu'est-ce que tu penses d'une personne en recherche d'emploi ou d'un étudiant? Voici mon CV, je suis à la recherche d'eux, et PDF CV placardé sur LinkedIn en poste. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Les bonnes chances.
Bonne chance. Franchement, moi, je pense que c'est une bouteille. Pour moi, c'est presque une bouteille à la mer. Et j'ai beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes, et quand j'interviens aussi dans certaines écoles, c'est mettez votre CV sur LinkedIn. Tu vois, c'est ça le premier conseil que je peux malheureusement entendre. Moi, je pense que c'est pas la bonne approche parce que tu peux faire un profil optimisé.
Déjà.
Le CV, c'est une carte que tu as en main que tu peux utiliser au bon moment pour l'envoyer à un recruteur, à quelqu'un qui marque un intérêt, qui est une marque d'intérêt pour ton profil, pour éventuellement une opportunité. Mais je vois beaucoup trop de CV placardés sur LinkedIn. Alors quand c'est des CV créatifs, vidéo, quand il y a un truc un peu sympa,
ouais.
tu peux en faire un post.
Ouais.
Mais comment tu veux sortir du lot quand tu fais ça? Arte fait la valeur, non? Je sais pas.
Ouais, alors oui, si c'est des posts, si c'est des CV, les CV originaux, j'adore. Et sur LinkedIn, généralement, ils font le buzz quand ils, ouais. quand ils sont super, même si c'est juste voici mon CV original. Ou... Mais déjà, profil LinkedIn, en fait, t'as beau faire un post avec ton CV, si ton profil derrière, il est pas complété, ça sert à rien. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Je trouve qu'en fait, LinkedIn sert à ça. C'est bien pour le CV, mais vous épinglez votre CV mis à jour, pas avec CV, Canva, enfin, il y a plein de méthodes, ouais. mais le CV Canva.v2, V8 sur son profil, ça se fait pas.
Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre son CV sur LinkedIn. Moi, c'est mon opinion personnelle.
Moi,
si tu fais un profil optimisé, ton CV, pour moi, tu l'utilises dans ta candidature, tu l'utilises si le recruteur le demande. Mais moi, je le mettrai pas.
Moi, je conseille de l'épingler sur son profil en plus.
Okay.
Mais c'est vrai que si ton profil LinkedIn, il est très complété, il est très bien complété sur compétences, etc. Normalement, t'en as pas besoin. Ouais. Normalement. Et le poste de voici mon CV, je recherche un stage. Mais en fait. Voici mon e-learning, achète-le. C'est pareil. Si je peux donner un conseil aux gens qui nous écoutent, c'est déjà un bon profil et le poste, en fait, tu le jettes pas comme ça. C'est essayer d'avoir une approche aussi proactive, d'aller contacter des personnes, d'aller se renseigner. Ouais. Et le CV, il y a 1% de chances que ça fonctionne. Malheureusement, c'est d'abord de créer une audience, c'est de créer un, enfin, je vais le répéter, mais créer un bon profil, aller voir les gens, essayer d'avoir quelque chose d'original, un CV. Aujourd'hui, un CV fond blanc avec juste écrit nom, prénom ou une lettre de motivation qui est à l'intention d'eux.
Ouais. Bon, rien de pire que de placarder une lettre de motivation.
Alors, franchement, on le voit plus, ouais, c'est ce que j'allais dire, on le voit plus. Mais une lettre de motivation, ouais. Je le dis souvent aux étudiants, mais en fait,
faites un email spontané.
Et voilà, vous bazardez, enfin, vous embêtez pas avec une lettre de motivation qui
ça
est pompée.
Si c'est une banque qui te la demande, par exemple, ça dépend. Ouais,
c'est ce que je dis. Vous êtes en start-up, en jeune boîte ou autre. Alors, faut s'adapter, exactement, je suis entièrement d'accord, faut s'adapter. Par contre, vous avez une boîte, une agence ou une boîte dans le digital ou autre. En général, je dis, faites pas de lettre de motivation. Faites plutôt un super mail de motivation avec une lettre de motivation et intéressez-vous à la boîte, personnalisez au max l'approche. Plutôt que de faire une lettre de motivation avec « Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. »
Ou alors, faites-la avec ChatGPT.
Ouais.
Comme ça, quitte à perdre du temps, optimisez-le. Quoi.
Optimise-le. Fais-moi une lettre. Faudra tester. Alors. Fais-moi une lettre de motivation pour postuler chez Exupéry.
Ça marche plutôt bien. Il y a moyen de gratter. À l'école, j'ai su gratter.
Donc
j'avais été étudiant. Je pense que je m'en serais pas mal inspiré de ChatGPT.
Mais je me demande si aujourd'hui, les boîtes. Alors, il y a différents types de boîtes, mais les boîtes, de manière générale, dans le digital ou autre, lisent les CV. Lisent les lettres de motivation, pardon. Déjà, on sait très bien qu'un recruteur passe entre 30 secondes et une minute sur
clairement.
Un CV. Une lettre de motivation.
Moi, je ne regarde pas les lettres de motivation. Quand je reçois une candidature spontanée, je regarde.
Le mail de motivation est beaucoup plus important.
Le mail, c'est le travail numéro un. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Si tu es capable de faire un email personnalisé pour demander un peu de visibilité à l'entreprise, pour t'intéresser à elle, mettre en avant tes compétences, un mail spontané, personnalisé, une candidature spontanée, comme ça marche, je pense, super bien. Encore faut-il aller chercher les emails, encore faut-il connaître l'interlocuteur, mais déjà de faire peut-être ne serait-ce qu'un petit message LinkedIn spontané, une marque d'intérêt pour une boîte, ça, c'est bien plus efficace que d'envoyer une bouteille à la mer.
Carrément.
Et puis je pense que si on doit faire un CV aujourd'hui, il faut le faire avec une petite dédicace à un deuxième Antoine de Physio, qui a créé, je pense, l'un des meilleurs éditeurs de CV aujourd'hui disponible sur le web. Moi, c'est ce que je recommande, c'est de faire son CV avec Physio, parce que les CV Canva, on les voit tous.
C'est vrai qu'on retrouve souvent le rond bleu en haut à gauche, on en a beaucoup. Et c'est vrai que les CV, pour ceux qui recrutent, on en voit beaucoup. Et d'avoir des CV un peu changeants, c'est bien aussi.
Ouais.
Ça fait du bien.
Ouais. Carrément.
Bon, je connais pas Physio, mais en tout cas.
Antoine de Physio, franchement, il a fait un super éditeur de CV avec des conseils. Tu peux vraiment tout mettre. Il y a des modèles préfabriqué entre guillemets, des templates comme on dit, et ce qui est génial, je trouve, c'est que tu fais ton contenu et après tu peux faire suivant et tu changes le modèle, tu n'as pas besoin de recréer à chaque fois, tu vois, et ça c'est très très puissant. Et là il est en train de mettre un petit peu d'IA aussi, d'intelligence artificielle, pour le rendre plus simple. Voilà, donc c'est un CV qui est payant, je crois, mais il doit y avoir un code promo Physiogrim qui existe, mais
comme ça.
Voilà, mais c'est un bon outil. Écoute, on arrive au bout du podcast, Antoine. J'ai toujours l'habitude de poser cette dernière question qui peut-être est redondante pour ceux qui ont écouté les 8 ou 9 premiers épisodes, mais le podcast s'appelle Le Futur, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette punchline que je suis allé chercher chez Orelsan?
Ok, j'aurais dû faire un petit chat GPT avant pour répondre à cette question, parce que le futur, c'est maintenant. Vous avez 2 heures.
Ça pourrait être un sujet ouais.
à proposer. Le futur, c'est maintenant. Je pense qu'il y a un fil rouge sur le podcast, c'est le test. Et je pense que le futur, c'est maintenant, c'est le c'est lancez-vous en fait. Mmh. C'est tester, que ce soit qu'on soit jeune, étudiant, tester, essayer, pratiquer. Et je le dis toujours dans mes formations ou en intervention, c'est essayer, tester. Vous voyez un outil, testez-le, c'est pas grave, mmh. ça marche, tant mieux. Et je pense que c'est lancez-vous et testez. Que ce soit étudiant ou entrepreneur, testez.
Soyez audacieux.
Voilà, audacieux, curieux et allez-y. Vous aurez, enfin, il n'y a rien de mieux que tester, d'apprendre. Et en fait, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous avez appris des choses.
Super. Bon, bah, longue vie à Exupéry.
Bah, longue vie à Grimp aussi.
Et quand est-ce qu'on te voit sur LinkedIn, Antoine de Exupéry?
Faudrait que je mette un Antoine de Exupéry. Est-ce qu'on a que Paul sinon, emploi ouais, et Antoine trop... de Exupéry Ah, et pas encore. Pour l'instant, j'ai encore le Antoine bon, Civel.
Quand mais... on se recroisera, si on fait un pari tous les deux, je pense qu'on ira là-dessus.
Ok.
Allez, à plus pour de nouvelles aventures.
Allez, ciao, ciao. Salut.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt !